de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous?
Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Dewi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « La commémoration de l'Organisation Nations Unies de 20 ans de bombardement de son siège à Bagdad ». Le ministre indonésien du commerce appelle une réunion avec l'ASEAN BAC à accepter de cultiver des voitures électriques. Le ministre de la Santé de la République d'Indonésie transmet 3 agendas de santé au G20 en Inde. Ministre de la Communication et de l'Information renforce l'engagement avec le Japon et l'Inde sur des EWG. Et l'Angleterre soutient l'aide de priorité économique de la République d'Indonésie. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. L'Organisation des Nations Unies, vendredi, commémore 20 ans d'attentat suicide à son siège à Bagdad, en Irak, qui a tué 22 membres du personnel de l'Organisation des Nations Unies. Cité par Antara samedi, lors d'une courte cérémonie au siège social des Nations Unies à New York, le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour le département de soutien opérationnel Atul Khare a posé un bouquet de fleurs devant une plaque à commémorer l'incident des bombardements survenus en 2003. L'Assemblée générale des Nations Unies en 2008 a fixé la date de bombardement de Bagdad en tant que journée mondiale de l'humanité. Dans un message vidéo pour la Journée mondiale de l'humanitaire, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que la tragédie d'il y a 20 ans avait marqué un changement dans le fonctionnement des militants humanitaires. Selon lui, à l'heure actuelle, bien que les militants humanitaires soient respectés dans le monde entier, ils sont également susceptibles d'être ciblés par les personnes qui ont l'intention de leur faire du mal. Le ministre indonésien du commerce, Zulkifli Hasan, a déclaré que le ministre de l'économie de l'ANASE avait organisé une réunion avec le conseil des affaires de l'ANASE ou ABAC pour s'entendre sur un certain nombre d'efforts stratégiques, notamment la croissance de l'écosystème des véhicules électriques et le paiement du rapide code de réponse. Lors d'une réunion de consultation du ministre économique de l'ANASE, ou abrégé en AEM, au Conseil consultatif des affaires de l'ANASE, ou ASEAN BAC, à Semarang, à Java Central, samedi, Zulkifli a déclaré que le ministre de l'ASEAN et l'ASEAN BAC avaient également discuté 5 problèmes prioritaires de l'ASEAN BAC, sont la transformation numérique, le développement durable, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire et la facilitation du commerce et des investissements. Zulkifli Hasan, qui est la présidente du ministère économique de l'ANASE 2023, a déclaré que AEM a également souligné l'importance de la collaboration avec les acteurs d'entreprise et la fourniture de consultations internes de l'ANASE-BAC dans chaque pays de l'ASEAN. Selon lui, l'augmentation de la coopération de l'ANASE avec l'entreprise ou le secteur privé est un facteur important dans le renforcement de l'ANASE. Pendant ce temps, le président de la NASA, Bach Arshad Rashid, a déclaré qu'en général, les ministres économiques de l'ASEAN avaient reçu des recommandations de l'ASEAN Bach apportées à la réunion. Le ministre indonésien de la Santé, Budi Gunadi Sadikin, a livré 3 agendas en Indonésie lors de l'ouverture de la réunion du ministre de la Santé, Jevent Anand. Dans sa déclaration à Jakarta samedi, le ministre Budi a déclaré que les 3 programmes de santé encouragés par l'Indonésie, à savoir faire progresser la déclaration de One Health et continuer à gérer le concept de santé unique en action concrète. L'Indonésie fait également avancer le mécanisme de la plateforme mondiale de contre-mesures médicales en tant que substitut à l'accès aux outils d'accélérateur COVID-19 ou ACTA en tant que suivi des résultats de la réunion des ministres de la Santé du G20 en Indonésie. En outre, selon lui, l'Indonésie encourage également l'innovation et les solutions numériques dans le secteur de la santé, notamment l'application de nouvelles technologies et de l'intelligence des renseignements qui amélioreront les services de santé grâce à l'accès, à l'amélioration à la qualité des services et à l'intégration des systèmes d'information sur la santé. Le ministre de la Communication et de l'Information, Budi Arisetyadi, a renforcé les engagements avec le Japon et l'Inde concernant les 3 problèmes prioritaires du groupe de travail sur l'économie numérique ou Digital Economy Working Group ou abrégé en DEWG de la présidence indienne du G20 en 2023. Lors de la réunion du ministre de l'économie numérique G20 au Taj OSN, Bengaluru, Inde, le ministre Budi a tenu une réunion bilatérale avec le ministre japonais de la transformation numérique Taro Kono, accompagné du ministre des Affaires intérieures Suge Yoshifumi. Aussi avec le ministre indien d'électricité et de technologie de l'information Ashwini Vaishnaw en tant qu'hôte. Dans sa déclaration de samedi, il a déclaré que les 3 problèmes comprenaient l'infrastructure publique numérique, la capacité numérique de préparer la main-d'œuvre et les problèmes de sécurité dans le secteur de l'économie numérique. En outre, le ministre des Communications et de l'Information a déclaré que l'Inde ouvrirait également des possibilités de coopération avec tous les pays membres du G20. Selon Budi, la réunion bilatérale qui a eu lieu aujourd'hui est un événement pour que le ministère de la Communication et de l'Information échange des expériences. Il espère également que la réunion pourra faciliter la similitude des points de vue sur les questions prioritaires du président de DEWG d'Inde cette année. Le ministre du Commerce de la République d'Indonésie, Zulkifli Hasan, a déclaré que l'Angleterre apporte son soutien à 2 des livrables économiques prioritaires, ou PED, de l'Indonésie concernant les initiatives industrielles basées sur des projets dans l'ASEAN. Dans une déclaration prononcée après avoir assisté au forum anglais de l'ASEAN à Semarang, Java Central, dimanche, il a déclaré que le soutien avait été apporté aux initiatives basées sur des projets industriels de l'ASEAN et à la feuille de route des normes harmonisées de l'ASEAN pour soutenir la mise en œuvre des objectifs de développement durable. En plus de discuter des priorités du PED de l'Indonésie, le forum anglais de l'ASEAN a également discuté des principales opportunités sectorielles dans les projets industriels régionaux de l'ASEAN, des défis de mise en œuvre des projets, du soutien de facilitation nécessaire pour les projets connexes. Selon Zulkifli, la coopération industrielle est une stratégie de promotion de la coopération économique au niveau régional. En effet, le secteur industriel est très important pour la plupart des pays membres de l'ASEAN.
Oh.
Les auditeurs de Voice of Indonesia, bonjour. Voici la mise au point de la semaine. La mise au point de la semaine d'aujourd'hui, dont le titre est « Le président Joko Widodo invite à répondre à la constellation mondiale avec des stratégies politiques d'anticipation ». Le président Joko Widodo prononce un discours la soumission d'informations gouvernementales sur le projet de loi du budget de l'État, ou en indonésien abrégé en RUU-APBN, pour l'exercice 2024, ainsi que ses notes financières, lors de la séance plénière d'ouverture de la période de session 1 du DPR-RI pour l'année de session 2023 à 2024 au bâtiment de Nusantara MPR-DPR-DPD de la République d'Indonésie à Jakarta mercredi dernier. Dans son discours, le président a déclaré que la fragmentation mondiale est très rapide, créant des perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui augmentent le risque de crise alimentaire, énergétique et financière mondiale. Alors, le président a encouragé que la constellation mondiale, en aperçu des tenants et des aboutissants des problèmes mondiaux qui sont interdépendants, où les problèmes sont contestés par les parties dans les besoins, puisse être abordé avec une stratégie politique anticipative. Selon lui, les politiques économiques et fiscales doivent pouvoir transformer l'économie pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. En outre, le président a également encouragé toutes les parties à répondre ensemble de manière appropriée et efficace aux défis mondiaux et nationaux. Il a déclaré que la PBN a un rôle important et stratégique dans le soutien, la facilitation et la détermination de l'orientation des politiques de compétitivité économique, sociale et de défense et de sécurité nationale. D'autre part, le président estime que le développement de la numérisation et de l'intelligence artificielle à l'ère numérique dominera la vie économique mondiale, y compris en Indonésie. Selon le président, cette rupture technologique ou une condition où se produit une innovation qui entraîne un changement à grande échelle ou fondamental d'un nouveau système doit être confrontée à la bonne stratégie. Par conséquent, il a déclaré que le développement de la qualité des ressources humaines, des infrastructures physiques et non physiques liées aux technologies de l'information doit continuer à être amélioré. À cette occasion, le président a également demandé que la transformation économique continue à accroître l'attractivité de l'investissement et la création d'emplois décents à grande échelle. Le chef de l'État a souligné que l'amélioration de la qualité des ressources humaines est un facteur majeur de la transformation économique.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et ses enregistrements dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. From Indonesia to the world.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 20 août. On commence par le 20 août 1993, lorsque l'accord d'Oslo a été approuvé. L'accord d'Oslo a été conclu à Oslo, en Norvège, le 20 août 1993 et officiellement signé à Washington DC le 13 septembre 1993 par Mahmoud Abbas. Il représentait l'Organisation de libération de la Palestine, ou OLP, et Shimon Peres représentait Israël. Au centre des accords d'Oslo se trouvait la création d'une autorité nationale palestinienne chargée de la responsabilité d'exercer une autonomie palestinienne limitée sur certaines parties de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, et la reconnaissance internationale de l'OLP en tant que partenaire d'Israël dans les négociations sur le statut permanent des questions restantes entourant le conflit israélo-palestinien. La suite, le 20 août 2003, le pont de Suramadu a commencé la construction. Le pont national de Suramadu, ou pont de Suramadu, est un pont qui traverse le détroit de Madura, reliant l'île de Java et l'île de Madura en Indonésie. Avec une longueur de 5438 mètres, le pont de Suramadu est actuellement le plus long pont d'Indonésie. Le pont de Suramadu se compose de trois parties, à savoir le viaduc, le pont de liaison et le pont principal. L'inauguration des travaux de construction de ce pont a été réalisée par le président Megawati Sukarnoputri le 20 août 2003 et a été construite et inaugurée par le président Susilo Bambang Yudhoyono le 10 juin 2009. Le 20 août 2008, le vol Spanair GK5022 s'est écrasé. Lors d'un vol courrière de l'aéroport de Barajas à Madrid à l'aéroport de Gran Canaria à Gran Canaria en Espagne, le Spanair GK5022 s'est écrasé le 20 août 2008. L'avion s'est écrasé après avoir décollé de l'aéroport de Barajas. Il s'agissait de la plus grande catastrophe aérienne en Europe occidentale depuis l'attentat de Lockerbie en 1988, avec 153 personnes tuées, dont 7 en route vers l'hôpital. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Untuk sudah.
chanson de pop indonésienne.
Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sous la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, mon Indonésie d'aujourd'hui est intitulé « L'Indonésie est candidate pour accueillir la Coupe du monde de volleyball 2025 ». Le ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d'Indonésie, Dito Aryo Tejo, a déclaré mardi que le gouvernement a approuvé la proposition de l'Indonésie d'accueillir la Coupe du monde de volleyball 2025. Pour cette raison, le ministre Dito Aryo Tejo a demandé au Conseil central de l'Association indonésienne de volleyball, ou abrégé en PPVSI, de transmettre ce qui est nécessaire et ce qui est en préparation pour accueillir la Coupe du monde de volleyball, en particulier dans le processus de candidature. Parce qu'une coordination intersectorielle est nécessaire pour réaliser l'accueil du championnat du monde de volleyball. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a déclaré que le gouvernement travaille actuellement pour que l'Indonésie puisse accueillir les championnats du monde, en particulier dans des sports populaires comme le volleyball. Par ailleurs, le ministre Dito Aryo Tejo a encouragé les régions à se doter d'arènes sportives de volleyball pouvant accueillir un grand nombre de spectateurs, au moins une arène sur chaque île. Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, il s'agit d'un effort pour faire progresser le volleyball afin qu'il soit réparti plus uniformément, afin que plus tard, dans l'organisation de la Ligue, il puisse apporter des revenus élevés aux régions. En tant que forme de soutien pour devenir l'hôte, dans ce cas, le ministère de la Jeunesse et des Sports avec PBVSI encourage l'amélioration du volleyball à la fois en termes de formation, d'infrastructure et de son écosystème. Auparavant, le président de la PBVSI, ou un Indonésien Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, ou l'Association Indonésienne de Volleyball, Imam Sujarwo avait signalé au président les plans de l'Indonésie de se présenter pour accueillir la Coupe du monde de volleyball 2025. Et l'un des sites du match est le Stade Multifonctionnel Intérieur, ou IMS, ou Indonesia Arena à Gelora Bung Karno Senayan à Jakarta Central, qui a été récemment inauguré par le président. L'utilisation d'IMS comme lieu de match principal est due au fait que IMS, qui a une superficie de 50 398 m², peut accueillir un public de plus de 16 523 personnes. La capacité et le support de l'infrastructure IMS est l'un des atouts pour mener à bien les agendas internationaux, notamment dans le domaine du sport. C'est tout mon Indonésie.
L'Indonésie aura bientôt une nouvelle capitale. La capitale, Nusantara, située en plein cœur de l'île de Kalimantan et point central de l'archipel, des Sabah à Maroké, des Miangas à Roté. Nouvelle métropole intelligente, c'est ça la notion. La capitale Nusantara, une ville mondiale pour tous.
And the tragic and traffic. Sometimes I can send a basic, but hey, we are the youth of the nation. We gotta get up as a new generation. Stop, think, now do something for your nation.
Beribu pulau terbentang sempurna, membelah dua samudra. Kan ku bawa namamu hingga ujung dunia. Ceritakan indah Nusantara.
Kemanapun aku melangkah, takkan ku lupakan tanah tempat ku bersumpah tuk membuatnya jadi indah. Beribu perbedaan, harmoni keindahan, takkan ada alasan bagiku tuk lupakan karena
di sana tempat lahir beta.
Ibu ini besar kamu.
Sampai akhir menutup mata.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Les auditeurs de Voice of Indonesia, bonjour. Cirebon est connu comme l'un des paradis du tourisme culinaire à Jaffa de l'Ouest. Il existe de nombreux plats spécieux de la ville de Cirebon, également connue sous le nom de ville de la crevette, qui a un goût délicieux apprécié par divers groupes. L'une des spécialités culinaires de Cirebon qui est très populaire est le tahu gejrot. Derrière la popularité de tahu gejrot, il y a une assez longue histoire. Ce plat culinaire est appelé l'un des aliments légendaires qui existe même depuis l'ère coloniale néerlandaise ou avant l'indépendance. L'une des zones connues comme l'origine du tahu gejrot est le village de Jatiseeng, district de Ciledug, la région de Cirebon. Le tahu, le tofu, existe depuis l'ère coloniale néerlandaise, probablement vers 1919, surtout avec l'existence de la communauté chinoise à Cirebon de l'Est à cette époque. Au fil du temps, les résidents locaux essaient alors de créer de la nourriture chinoise sous d'autres formes. Avant cela, le tofu n'était que frit, puis il était créé avec un mélange de sauce et additionné de plusieurs sortes d'épices telles que le piment, l'ail et les échalotes et le sucre. C'est là que le tahu gejrot est apparu. La sauce utilisée pour le tahu gejrot est à base de cassonade bouillie mélangée à la sauce soja et à plusieurs autres ingrédients complémentaires. De manière inattendue, les créations alimentaires à base de tahu des résidents locaux sont très appréciées, de sorte qu'à la fin, peu de gens ont suivi la façon de cuisiner cette nourriture, même finalement utilisée comme marchandise à vendre jusqu'à présent. Le nom de tahu Gujarat vient du matériau qui est en fait de tahu, à savoir des morceaux de tahu frits avec une texture creuse. Et Gujarat vient de l'habitude du vendeur de verser de bouillon assaisonné d'une bouteille sur des morceaux de tahu. Ce processus est connu sous le nom de digujarat car lorsque la sauce est versée, il y a un son de jirat, jirat, jirat. Chers auditeurs, si vous voyagez en Indonésie et plus particulièrement à Cirebon, goûtez ce culinaire de tahu Gujarat qui a un goût dominant d'épices et d'acide avec une présentation unique car il utilise une petite layée comme assiette. Layée, ou ce qu'on appelle aussi un chobek, est fait d'argile comme endroit pour moudre, par exemple pour moudre la sauce chili.
Yeah. putih, hormat gerak.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Voici l'Indonésie en couleur dont le titre est « Le bonbon anti-diabétique, une innovation des étudiants de l'UMM ». Le diabète est l'une des principales causes de décès dans le monde. Cependant, le traitement dans la communauté se limite à limiter la consommation de sucre ou à injecter de l'insuline. Habituellement, les diabétiques évitent les aliments sucrés, y compris les bonbons. Cependant, une équipe d'étudiants de l'Université de Muhammadiyah Malang, ou UMM, a développé une innovation sous la forme de bonbons à la gelée. Ce bonbon est un effort préventif, surtout chez les enfants qui aiment vraiment les bonbons. Ce bonbon anti-diabétique a passé avec succès et a été financé par le ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie dans le cadre du programme de créativité étudiante. La responsable de l'équipe du programme de créativité étudiante, Herlina Diah Ayurosita, a déclaré que le bonbon à la gelée était fabriqué avec les ingrédients de base de l'extrait de zerumbon dans le lempuyang et la bajas au xylitol. Le choix de ce matériau est indissociable du fait que le rhizome de lempuyang possède des propriétés qui peuvent être utilisées comme alternative au contrôle de la glycémie. De plus, ce matériau est très facile à obtenir et commercialiser sur le marché à un prix abordable, pour que tous les groupes puissent facilement le trouver et l'utiliser. Jusqu'à présent, selon Herlina, il n'y a eu aucune recherche sur l'extrait de zerumbon dans le lempuyang avec de la bajas au xylitol. Certains d'entre eux ne parlent que d'anti-hyperglycémie avec de l'extrait de gingembre qui ne fait que réduire les niveaux élevés de sucre du sang dans le corps. Jusqu'à présent, le processus de fabrication des bonbons est entré dans la phase d'extraction de la plante parfumée, de lempuyang et de fermentation du xylitol. Ce bonbon peut être une alternative à la prévention du diabète chez les enfants car il est faible en sucre.
We'll be right back.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023, est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 ans, enregistrement dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonjour les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois, je vais parler d'une chanson intitulée Emosi Jiwa. La chanson Emosi Jiwa, créée par Hari Sabar, interprétée par Lita Zain et Yana Julio, est sortie en 1988 comme bande originale du film Catatan Sibuy 2. En 2023, cette chanson a été reprise par Fabio Asher et Prince Amandagi et arrangée par le célèbre producteur, arrangeur et compositeur Andy Rianto. Dans cette nouvelle version de la chanson Emosi Jiwa, Andy Rianto veut toujours conserver les caractéristiques de cette chanson en étant capable de donner une nouvelle sensation. Cette chanson raconte de deux couples de tourterrois amoureux. Ils expriment des sentiments de nostalgie l'un pour l'autre. Ouverte aux accords d'un instrument luxueux, cette chanson est encore plus belle grâce aux voix de Fabio Asher et Prince Amandagi. Selon lui, cette chanson est très romantique car elle transmet un message de l'histoire d'amour de Boy et Nuka dans le film Catatan Sibuy. Chers auditeurs, voici la nouvelle version de Emosi Jiwa, interprétée par Fabio Asher featuring Prince Amandagi. Bonne écoute!
Betapa halnya akan berpisah.
Voice of Indonesia.
Sang pemeran pengganti.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.